faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Oui, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Raymond Poulidor est encore arrivé deuxième, 32 ans après Jacques Anquetil. Poupou vient de mourir, il avait 83 ans, l'éternel second du cyclisme français et pourtant quel palmarès, mais surtout la popularité en or massif. Il était né l'année du Front Populaire en 36, le 15 avril, dans un hameau de la Creuse, fils de métayer, mais sa gloire date des années De Gaulle, Pompidou, Giscard.
Mercredi donc, Poulidor est mort, dernière échappée en solitaire pour ce cycliste dont la popularité rivalisait avec De Gaulle ou Delon. Oui, Raymond Poulidor est né avant la Seconde Guerre mondiale, une légende du sport français, mieux encore une légende de notre mémoire collective. Tout le monde connaît Poulidor, il fut une des incarnations de cette époque joyeuse et insouciante, dit-on, que fut la France des 60s. Ce soir, hommage à celui qui pouvait prétendre à la classe populaire. Il y a 4 ans, Raymond Poulidor était venu nous rendre visite. Ce fut sa dernière grande interview accordée à un média national à l'occasion de ses 80 ans. Et nous avons décidé de rediffuser ce soir une partie, oui, une partie de cette discussion où Poulidor évoque son enfance, la France et sa rivalité avec Anquetil. Et avec nous, ce jour-là, il y avait aussi François Morel, le grand François Morel, grand admirateur de Poulidor. Et puis dans la foulée, retour au direct, vers 18h40, j'accueillerai une journaliste politique, ancienne signature du Parisien, du Figaro et de l'Opinion, entre autres. Elle doit, dit-elle, sa vocation journalistique et sa passion polarpolitique à Raymond Poulidor. Elle nous expliquera tout ça. Béatrice Houchard, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. Ce soir, la légende Poulidor. L'œil du tigre, c'est parti.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Une des magies de la radio, en tout cas selon moi, c'est la conservation des voix. Oui, Raymond Poulidor est mort mercredi dernier à l'âge de 83 ans, mais ce soir, dans le poste, il sera encore un peu là, avec nous, avec vous. Vous allez entendre un homme au terme de sa vie, un octogénaire qui évoque ses lointains souvenirs, sa gloire passée ou encore sa mère. Oui, vous allez voir pourquoi sa mère est importante. Nous étions sur Inter le 27 décembre 2015. La légende raconte qu'il a toujours fini second, que c'est l'éternel perdant. Mais ce n'est pas vrai. Raymond Poulidor possède un palmarès de champion. 189 courses gagnées dans sa carrière de cycliste professionnel. C'est énorme. Alors certes, la défaite est parfois charmante, mais les raisons de la popularité de Raymond sont bien plus subtiles qu'une tendresse pour le second.
En 1964, la France est divisée entre poulidoristes maniaques et anquetilistes sectaires. Poupou incarne la ruralité et les valeurs traditionnelles, alors qu'Anquetil représente la modernité et surtout la réussite sportive. Si Poupou reflète l'image d'un éternel second, c'est qu'il a trouvé sur sa route Eddy Merckx et Jacques Anquetil. Il fut néanmoins dans le cœur des Français le maillot jaune de la popularité. Au fil du temps, c'est comme si Poupou était devenu un académicien de la grande boucle, en quelque sorte, un immortel.
Raymond Poulidor, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on va commencer par le début, Raymond Poulidor. Dans ses mémoires, au Cherche Midi, il y a quelques photographies. Et la première photographie, c'est une photo de vous, en 1942, en sabots, dans la cour d'une ferme. Parce qu'en effet, Raymond Poulidor est né en avril 1936 et que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un petit garçon dans la Creuse. Quel souvenir vous avez, Raymond Poulidor, de cette Seconde Guerre mondiale ?
J'ai des souvenirs énormes, puisque c'était la guerre, c'était les événements. Évidemment, il y avait les maquisards. Vous savez, les maquisards en Creuse, bon, c'était un peu perdu, les forêts et tout. On voyait guerre les Allemands. Alors moi, j'étais avec les maquisards, je me baladais avec les maquisards et je transportais les armes, les grenades et tout. D'ailleurs, je ne sais pas comment se fait-il que je suis vivant aujourd'hui, puisque nous avions quelquefois des grenades, des gamins de 7-8 ans, des grenades offensives, dégoupillées, et nous allions les balancer dans la rivière pour pêcher des truites.
Et vous racontez dans ces mémoires d'ailleurs que vous saviez qu'elles explosaient au bout de 10 secondes et qu'avec votre frère aîné, vous attendiez le dernier moment pour les lancer, de manière complètement intrépide d'ailleurs.
C'était l'inconscience. Même il suffisait d'avoir une chute et tout, que vous tombiez, que la grenade... Bon, et là, ça pardonnait pas. Et un autre souvenir qui m'est resté dans l'esprit, j'étais très très jeune, quand il y a eu ce massacre d'Oradour-sur-Glane. À vol d'oiseau, nous étions à peu près à 25-30 km d'Oradour-sur-Glane. Et il y avait un vent favorable. Et avec mes parents, on a dit, tiens, on est en train de... C'est affreux ce que je vais vous raconter. On est en train de griller le cochon. On sentait de la chair brûlée. Puisque lorsqu'on tuait le cochon à la campagne, pour enlever les poils et tout le crème, on les brûlait et puis à l'eau, on les ébouillantait pour que la peau soit bien lisse et tout. Et ça sentait la chair brûlée. C'est quelque chose d'affreux. Et après, on a su ce qui s'était passé à Oradour-sur-Glane.
Dans la France du début des années 50, Raymond Poulidor, vous avez à peu près 15 ans. Vous travaillez au champ et déjà, évidemment, le Tour de France sillonne les routes de France. Quel est le premier souvenir du Tour de France, Raymond Poulidor ?
Le premier souvenir du Tour de France, c'était déjà le... Il était passé à Limoges. Et l'année où Fausto Coppi avait dominé ce Tour de France. Et puis, il y avait un coureur régional qui avait gagné une étape à Limoges, qui s'appelait Jacques Vivier. Et puis le Tour de France était passé à Saint-Léonard-de-Noblat, où je reste actuellement. Et je m'étais déplacé, et j'avais vu les coureurs, et le maillot jaune passer à Saint-Léonard-de-Noblat. Alors c'est des souvenirs évidemment qui restent.
Alors on va écouter justement un reportage de 1975 sur ce petit village que vous connaissez si bien.
Depuis 13 ans, un village de la Haute-Vienne suit attentivement le Tour de France. C'est ici que naquit le physicien Gay Lussac, mais en fait, Saint-Léonard doit sa célébrité à un coureur cycliste qui se fait un nom, mais aussi un surnom. La famille Poulidor y est restée fidèle, et l'un des frères de Raymond, André Poulidor, dirige l'école de cyclisme du club local. En pleine campagne limousine, maman Poulidor habite avec son fils aîné une modeste maison dépourvue de luxe, voire même de confort.
Alors vous croyez qu'il va le faire encore le Tour de France là ?
Eh bien, il paraît, oui, il nous a dit qu'il allait le faire.
S'il pouvait le gagner, on serait bien contents.
C'était votre mère, Raymond Poulidor. Maman importante, parce que c'est sur son vélo que vous avez appris à faire du vélo, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, puisque nous étions une famille de quatre frères. Et mes parents voulaient absolument une fille. Bon, ils ont essayé, le cinquième, c'était encore un garçon. Et c'est moi qui suis arrivé. Et puis j'ai fait le travail à la ferme d'une fille. C'est-à-dire, c'était moi qui étais chargé de faire les commissions. Il m'arrivait de faire le ménage. Et j'allais faire les commissions. Évidemment, la maman avait un vélo. Et je me déplaçais avec son vélo. Évidemment, un vélo de femme. Pas de dérailleur et tout. Et quelquefois, je rencontrais des amis qui étaient un peu plus âgés que moi, mais qui faisaient les courses. Alors, comme il y avait des côtes et tout, et puis je m'apercevais qu'avec ce vélo de femme... Quelquefois, ces jeunes avaient du mal à rester dans ma roue. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais certaines qualités pour faire du cyclisme et bien réussir.
Et une maman qui ne voulait pas que vous fassiez du vélo au départ, parce qu'elle
trouvait
ça très dangereux.
La maman était contre, puisque déjà, il fallait des bras pour travailler à la ferme.
Ben oui.
Et puis c'était dangereux. Et j'avais deux frères qui faisaient les courses avant moi. Alors un troisième, ça suffisait.
Alors, autour de cette table, nous a rejoint quelqu'un que les auditeurs de France Inter connaissent bien et qu'on apprécie beaucoup sur cette antenne, c'est François Morel. François, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, François ?
Mais très bien.
Alors, merci d'être là, déjà. Et si vous êtes là, François, c'est parce que vous avez une passion pour Raymond Poulidor. J'aimerais juste que vous commenciez par nous dire ce qu'il incarne pour vous, ce coureur cycliste légendaire du Tour de France.
Pour moi, c'est d'abord un champion de proximité. C'est-à-dire que quand on était petit, on avait deux idoles. Il y avait Bourville et il y avait Poulidor. Et pour moi, je les associe un peu parce que il y avait Bourville et De Funès et il y avait Poulidor et Anquetil. Et on admirait évidemment De Funès, on admirait Anquetil, mais en plus d'admirer Poulidor et Bourville, on les aimait. On avait l'impression que c'était des gens comme nous. Enfin, pour mes parents, je pense que Poulidor, c'était quelqu'un qui aurait pu être un voisin du village et puis qui avait du talent et qui a cru en son talent et qui allait jusqu'au bout de son rêve, quoi. Donc, c'était une personnalité importante.
importante. Et alors, à la lecture de ces mémoires, Raymond Poulidor, je me suis dit quand même que vous étiez un bout vivant de l'histoire de France. Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale, vous avez fait la guerre d'Algérie, vous avez été aussi célèbre que Bardot et Delon à un moment donné, vous avez connu tous les présidents de la Ve République. C'est impressionnant, Raymond Poulidor, quand même, cette existence.
Non ? Oui, bien sûr, je dois tout au vélo. Je me suis enrichi intellectuellement avec le vélo. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnages extraordinaires. Justement, vous avez parlé de Funès. J'ai eu l'occasion de rencontrer un fils à de Funès, qui est un célèbre chirurgien. Ouais. Et j'ai été surpris, il m'a dit que le papa avait la photo de Poulidor sur son bureau.
C'est beau ça.
C'est extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire.
Justement, vous évoquez des présidents de la République, mais pas tous. C'est-à-dire, vous parlez de Gaulle, de Pompidou, de Mitterrand, de Hollande.
Le seul que j'ai pas rencontré, c'est de Gaulle.
Ah bon?
De Gaulle, je l'ai pas rencontré. D'ailleurs, de Gaulle, j'évoque en 1972, lorsque c'est un peu ma grande fierté, ma première victoire sur Merckx lors de Paris-Nice. Tous les journalistes avaient fait leur papier la veille.
Ouais.
Ils avaient titré « Troisième victoire de Merckx », puisqu'il était impensable que je batte Merckx le dernier jour. Et puis l'extraordinaire s'est produit. Non seulement j'ai gagné l'étape, mais j'ai gagné Paris-Nice, le classement général. Et en ce moment-là, Pompidou qui faisait une conférence de presse sur France Soir, la une était réservée à Pompidou. Et ce jour-là, le directeur de France Soir a dit non, Poulidor va pas partager la une avec Pompidou. Et là, j'ai partagé la une avec Pompidou. Et c'est là que De Gaulle a eu des paroles. Mais il a dit, Poulidor, c'est un nom de Premier ministre. C'est des choses, j'étais privilégié pour cela, puisque, vous savez, passer des moments intimes avec des personnalités aussi extraordinaires. Comme j'ai eu l'occasion de déjeuner avec Salvador Dali, ça c'est des souvenirs énormes.
On a du mal à vous imaginer à côté de Salvador Dali. Oui. Tellement vous êtes deux personnalités.
D'ailleurs, j'ai été surpris. J'étais champion de France et Salvador Dali voulait rencontrer Poulidor. J'ai dit, tiens, comment se fait-il? Et puis, j'ai su par la suite qu'il était très amoureux du Tour de France. Comme il avait vanté la fameuse gare de Perpignan et qu'il avait fait la publicité pour les chocolats Lanvin.
Je suis fou du chocolat Lanvin.
Et il disait, moi je suis un fou du Tour de France. Il avait ces mots bien particuliers.
C'est-à-dire il était toujours en spectacle ?
Toujours en spectacle,
oui. Oui.
Bon, il habitait une autre planète.
Hein. Raymond Poulidor, votre premier Tour de France c'est 1962. Mais très vite, cette rivalité légendaire avec Jacques Anquetil va prendre place. Et notamment dès 1964, avec une étape qui est restée dans toutes les mémoires, le Puy-de-Dôme bien entendu.
Premier démarrage, premier lâchage, ils ne sont plus qu'une vingtaine à l'assaut du col de la Baraque, parmi eux, les 12 premiers du classement général. Le train est assuré par Poulidor, Bahamontès et Jiménez, puis brusquement, Jiménez a démarré. Le voici maintenant avec 100 mètres d'avance sur Poulidor et Anquetil, alors que Bahamontès tente de revenir sur lui. À 3 km du sommet, Bahamontès est toujours à 15 secondes, alors que Poulidor et Anquetil, qui luttent là pour la première place du Tour de France, et qui pensent surtout aux minutes de bonification qui se sont enfuies, Poulidor, donc, et Anquetil, perdent du terrain sur les deux grimpeurs espagnols. Mais pour l'instant, c'est Anquetil en fait le vainqueur, car il réussit à conserver à ses côtés Raymond Poulidor, l'homme le plus dangereux pour lui au classement général, puisque seulement distant de 56 secondes. Et Jiménez en effet s'envole, mais brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, il prend 10 mètres, 20 mètres, puis 20 secondes, 30 secondes, et au sommet ce sera 42 secondes d'écart entre Poulidor et Anquetil. Et c'est là que se joue le Tour de France. Poulidor donc troisième à 57 secondes, qui conserve ainsi toutes ses chances puisqu'il est remonté à 14 secondes au classement général de Jacques Anquetil. Lui aussi termine exténué, mais l'important était de reprendre du terrain à Jacques Anquetil. Autant dire que l'on ne saura que mardi soir qui remportera ce Tour de France, puisque c'est sur le secteur Versailles-Paris, 28 km contre la montre, que Poulidor et Anquetil se départageront.
Ce tour-là, Raymond Poulidor, vous auriez dû le gagner quand même, non, celui-là.
Oui, bien sûr, j'aurais dû le gagner. Ça fait drôle lorsqu'on annonce l'arrivée mardi, puisqu'il faut savoir qu'en ce moment-là, le Tour de France arrivait toujours le 14 juillet.
Le 14 juillet, exactement.
Et le Puy-de-Dôme, c'était le 12 juillet, c'est-à-dire 48 heures. Oh, mais ce Tour de France, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, 100 millions de fois. C'est pas dans le Puy-de-Dôme que j'ai perdu le Tour de France. Je l'ai perdu pratiquement dès le premier jour. On s'est focalisé sur le Puy-de-Dôme. La photo, le coude à coude, a fait le tour du monde. Et on m'a dit, Anquetil, vous a bluffé et tout, vous avez attaqué trop tard. Non, c'est pas vrai. Puisque ce jour-là, j'ai pas été bon, ni Anquetil. J'ai été jusqu'à la limite, puisque moi, ce que je voulais, c'était gagner l'étape, bien sûr, avec la minute de bonification. Si j'avais pu suivre les deux grimpeurs espagnols, je l'aurais fait. Et là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais le premier jour, il y a une chute qui s'est produite à 1,1 km de l'arrivée. Et j'ai terminé à 2,50 m d'Anquetil, et j'étais classé à 40 secondes de retard le soir, puisque j'ai été retardé par une chute. Et comme à ce moment-là, il n'y avait pas les chronomètres qu'il y a maintenant, dès l'instant où il n'y avait pas de cassure, tout le monde était classé ex aequo. Et moi, j'avais 2,50 m de retard sur Anquetil, et j'ai eu 40 secondes de retard à l'arrivée.
Quand on évoque ce duel, Anquetil-Poulidor, pas mal de gens y mettent du symbole. C'est-à-dire, on disait, voilà, Anquetil, c'est la France de la modernité. Poulidor, c'est la France d'une certaine ruralité. Il y avait une lutte symbolique, soi-disant. Est-ce que vous avez ressenti cette lutte symbolique ou c'était avant tout une adversité sportive sur les routes de France ?
Bien sûr, vous savez, cette popularité qui m'était réservée...
Immense popularité.
Immense popularité. Mmh. Je le reproche un peu à mes supporters qui m'ont toujours tout pardonné. Je gagnais.
Mais c'est beau en même temps.
Oui, bien sûr. Je gagnais pour eux, c'était beau. Je gagnais pas, j'étais applaudi comme le vainqueur. Et c'est peut-être parti du premier Tour de France, puisqu'il faut savoir qu'en 62, j'ai pris le départ du Tour de France avec une mène dans le plâtre.
Voilà, plâtré, tout l'avant-bras plâtré.
Voilà. Mmh. Et j'ai fait la moitié du Tour de France jusqu'à la montagne avec ce plâtre. Et lorsqu'on m'a enlevé le plâtre, j'ai gagné la grande étape de la Chartreuse, grande étape de montagne. Pour moi, évidemment, c'est des souvenirs énormes. Puisque les deux derniers coureurs que j'ai lâchés s'appelaient Bas Montes et Charlie Gaulle, deux grands, très très grands grimpeurs. Et j'ai fait plus de 100 km d'échappée.
François Morel ?
Oui, vous dites que le fait que vous êtes le représentant de l'éternel second, vous êtes considéré comme l'éternel second, vous dites que c'est une légende et que c'est pas tout à fait vrai. C'est ce que vous dites notamment à François Mitterrand quand vous le rencontrez avant 81.
C'est pas une légende, c'est une vérité. C'est pas moi qui le dis, ce sont mes... Ce sont ceux qui suivent le vélo. Ils me présentent comme l'éternel, oui. Celui qui a jamais gagné de course, qui a toujours fait deuxième.
Oui, ce qui est pas vrai, évidemment.
D'ailleurs, ça m'a servi énormément.
Oui.
Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cela.
Parce qu'il faut rappeler...
Puisque si j'avais gagné 2-3 Tours de France, je ne serais pas là. Vous ne m'auriez pas invité.
Mais vous avez quand même le palmarès d'un grand champion. Il y a 189 victoires, il y a un Tour d'Espagne, il y a un championnat de France, il y a le record de podium du Tour de France.
Oui,
vous avez 8 podiums quand même.
Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, pour rebondir là, l'éternel second... Tous les jours, il y a un Poulidor.
Là, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Là, vous avez évoqué François Mitterrand. Vous savez, lorsque François Mitterrand a été battu la deuxième fois à la présidence de la République, on a dit c'est le Poulidor de la politique.
Ouais.
Et tous les jours, il y a un Poulidor.
Oui.
Là encore, j'ai rencontré un gamin, un jeune de 8-9 ans. C'est toi, Poupou ? Cette familiarité.
Ouais.
C'est toi, Poupou ? J'ai dit oui, c'est moi. C'est toi qui fais toujours deuxième ? Il y a mon papy qui m'a baptisé le Poulidor de l'école, parce qu'il est deuxième à l'école. Il y a un Poulidor de la pétanque. Alors les gens veulent me connaître, mais qui c'est ce Poulidor ? C'est un acteur de cinéma, c'est un homme politique, ils ne savent pas que je suis un cycliste, un ancien champion.
Alors Raymond Poulidor, il y a cette dualité, hein, Anquetil-Poulidor, qui a été au paroxysme dans les années 60. Néanmoins, ce qu'on sait moins, c'est qu'ensuite, vous êtes devenus de vrais amis. Et notamment, grâce à une soirée de 1974, vous êtes dans votre chambre d'hôtel, vous êtes coureur sur le Tour de France encore, vous êtes à l'hôtel, quelqu'un frappe à la porte de cette chambre d'hôtel. Qui est là et que veut-il ?
C'est Anquetil qui était devenu un de mes grands supporters. Alors je me suis posé la question. 74, c'était 10 ans après
64.
Le fameux duel de
Bien
64.
Sûr.
Et en 74, je livrais le même duel avec Merckx. C'est-à-dire, j'étais à deux doigts de battre le cannibale, le grand.
C'était
le
son
grand
surnom.
Eddy. Alors Jacques est venu, il me dit, je serais content que tu gagnes le Tour de France. Alors je me suis posé la question, j'ai dit, tiens, ça fait drôle quand même. Il veut absolument que je gagne le Tour de France. Parce que Jacques Anquetil était le seul coureur à avoir gagné 5 Tours de France. Et Merckx en avait déjà gagné 4.
Ouais.
Alors est-ce qu'il ne voulait pas qu'il gagne un 5e pour l'égaler ? Et puis il y a une autre chose. Il vient dans ma chambre, il me dit, mais c'est pas possible, tu continues à m'emmerder, pardon. Bon, j'ai dit, pourquoi ? Il dit, tu te rends compte, ma fille avait une casquette de toi, elle avait une casquette Poulidor, Elle a un an et demi, presque 2 ans, et elle dit Poupou avant papa. Puisqu'elle était sur le bord de la route, et avec les autres gamins, et Poupou, Poupou, et ils avaient toute la casquette Poulidor sur la tête. Et il m'a réclamé une casquette, voilà.
C'est beau quand même, c'est une très belle histoire.
C'est magnifique.
Et tout le livre est sous-tendu par cette relation avec Anquetil.
Oui.
Et je trouve que la fin est extrêmement émouvante. Sur son lit de souffrance, Anquetil vous dit cette fois encore, tu finiras derrière moi, comme d'habitude. Remarque, c'est mieux pour toi, je t'ai toujours envié, tu sais. Et donc, Anquetil vous enviait.
Oui.
À cause de cette popularité
C'est-à-dire, cette popularité, cette grande rivalité était entretenue également par son entourage, beaucoup. Puisque je comprenais, Anquetil. Cette popularité, vous savez, les organisateurs, ils regardaient la recette. Lorsque je faisais des critériums, je faisais une recette supérieure à lui. Alors il me payait l'équivalent et quelquefois plus que lui, alors que j'avais rien gagné. Le palmarès comparé à lui, alors son entourage et tout disait « mais c'est pas possible, tu vas pas te laisser faire et tout ». Alors évidemment, ça crée encore une rivalité. Mais là, ce que vous me dites, là, il m'a dit plusieurs choses. Là, les termes que vous avez employés, là, quelques jours avant qu'il meure, il m'a dit également, tu sais, j'ai souffert dans le Puy de Dôme, mais en ce moment, je suis en train de faire un Puy de Dôme toutes les heures. Mais encore une nouvelle fois, tu vas finir deuxième. C'est quelque chose, vous savez, c'est difficile. Hein.
C'est difficile, et en même temps, c'est très beau, Raymond Poulidor.
C'est difficile, mais c'est
une personne qui est en train de mourir, qui vous dit,
encore,
je vais encore finir le premier, parce que je vais mourir le premier.
Aujourd'hui, 25 ans après, j'en ai presque les larmes aux yeux. Mais Anquetil, vous savez, je l'ai dit tout souvent, Anquetil, il était hors norme. Il était hors norme, à tout point de vue. À point de vue humain, au point de vue sportif, il était fait pour faire du vélo. On a tellement dit de choses sur lui, qu'il se dopait et tout, mais c'est faux. Il n'avait pas besoin de ça.
On parle de dopage, Raymond Poulidor. Vous racontez aussi dans ce livre qu'en 1966, à Bordeaux, vous êtes le premier coureur cycliste français à avoir subi, entre guillemets, un contrôle antidopage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Oui, mais là, c'était pas la fédération, c'était pas l'UCI, c'était rien. C'était la police. Des commissaires qui sont venus dans l'hôtel et puis bon. Alors, beaucoup de coureurs étaient au courant qu'il allait avoir peut-être quelque chose, contrôle des valises, contrôle antidoping. Puis moi, je me baladais dans l'hôtel, j'étais en survêtement. Et puis je vois des personnages s'avancer vers moi. Ils ne connaissaient pas Poulidor. Ils me disent, vous êtes sur le Tour de France, qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes mécanicien ? Et je dis, non, je suis coureur. Vous faites le Tour de France ? Oui, je suis coureur. Bon, montrez-moi votre chambre et on va vous suivre. Ils ont fouillé ma valise et puis ils m'ont fait pisser en employant le mot SEM. J'ai été le premier coureur contrôlé. Et le lendemain, il y a eu une manifestation de grève sur la ligne de départ.
Est-ce que votre premier entraîneur, presque légendaire lui aussi, Monsieur Magne, Antonin Magne, disait « il n'y a pas de gloire » sans vertu.
Voilà.
On sait que vous avez fait une carrière clean, comme on dit au niveau de votre santé de cycliste. Néanmoins, quel regard vous portez aujourd'hui, Raymond, sur votre sport ? Est-ce que vous diriez que certains l'ont abîmé, le cyclisme, par des pratiques médicales un peu illégales, on va le dire, quand même ? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Raymond Poulidor ?
Déjà, au point de vue amélioration, évidemment. Maintenant, il y a ordinateur, il y a oreillette, il y a tout. Les ravitaillements, il n'y a plus besoin d'emporter les ravitaillements. Les coureurs sont ravitaillés tous les kilomètres, pratiquement. Bon, mais ça reste qu'il faut pédaler. Il faut pédaler. Maintenant, c'est des moyennes extraordinaires. Maintenant, ils font pratiquement 200 kilomètres en moins de 4 heures. C'est quelque chose d'énorme. Et puis, évidemment, il y a eu tout ce... le dopage, que le cyclisme en a beaucoup, beaucoup souffert. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement, le vélo n'est pas plus atteint que les autres sports. Même, je crois qu'il arrive en 7e position. Alors après l'athlétisme, le rugby, etc. Mais le vélo, c'est un sport gratuit, on le contrôle. Puisqu'il faut savoir que le vélo, je ne sais pas comment il y a des millions de contrôles. Sur 100 000 ou 150 000 licenciés, c'est quelque chose d'énorme.
François Morel.
Ce qui a changé aussi quand on voit le Tour maintenant, c'est qu'on voit plus les visages. Alors qu'à votre époque, on reconnaissait des visages et on pouvait se raconter aussi des histoires humaines entre vous et Anquetil aussi, parce que c'était comme de la mythologie, c'était des grandes histoires qu'on nous racontait. Maintenant, on voit des choses, on a l'impression d'être devant un film de science-fiction, presque, il n'y a plus de visages.
Mais c'est-à-dire, maintenant, les coureurs cyclistes n'ont plus de personnalité. La personnalité a disparu, pourquoi ? puisque lorsqu'on est, on les voit sur le Tour de France, avec les lunettes, les casquettes, le casque, j'appelle ça le cocotte minute, on les reconnaît plus, ils se promènent dans la rue, on ne les reconnaît plus du tout. Avant, vous voyez les coureurs en montagne, il n'y avait pas de casque, il n'y avait pas de casquette et tout, il n'y a pas de lunettes ni rien.
On va écouter un dernier extrait sonore, commis cet extrait par François Morel.
C'est que nous fais chier à lire, toi. C'est que nous fais chier à lire tout le temps.
Je te signale que ton père te parle.
Hein? Qui nous fait chier à lire tout le temps? Qui c'est quoi son... Yourcenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien?
C'est un empereur romain.
Yourcenar, c'est un empereur romain?
Mais non, Adrien...
Oui, bon Dieu, hein, ça va, hein?
T'as qu'à répondre aussi.
Hein? Qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé... C'est ton Yourcenar qui a taillé la haie? Bon, alors... Dis donc, il en a combien des livres? Il en a combien des livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors... Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il a même pas lu.
Tu n'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor?
Non, c'est pas au programme à l'école.
C'est pas au programme à l'école.
Ça non plus, c'est pas au programme, dis donc.
Tiens
alors.
Ça en plus.
Voilà, les des chiens, François Morel. C'est vrai que vous avez beaucoup cité Raymond Poulidor dans ces sketchs de des chiens.
Je ne sais pas si on l'a beaucoup cité, mais celui-là était marquant, donc on l'a revu beaucoup de fois. Pour moi, c'était un clin d'œil à mon oncle Marcel, qui racontait toujours les histoires de Poulidor et qui racontait quand il était petit. Enfin, ce que vous avez raconté tout à l'heure sur le vélo de votre maman et tout ça, il avait le livre de Poulidor et donc je m'étais inspiré de lui pour ce personnage.
Mais on pourrait mettre les mémoires au programme finalement maintenant, parce que mais c'est l'histoire de France qu'on redécouvre aussi à travers Poulidor.
Oui, récemment, sur France 3, il y a eu un documentaire qui vous était consacré par Patrick Jeudy, où il était extrêmement lyrique sur vous.
Un film qui a été fait. Oui.
Mais François, vous faisiez la voix off.
Je faisais la voix off, oui. Donc je connais bien le film et les images. Et comment vous avez réagi quand vous avez découvert, je crois, ce film en public?
Ah ben oui, il a été présenté à Saint-Léonard-de-Noblat. Oui. Ça a été très bien fait. D'ailleurs, il a travaillé plusieurs années sur ce film. Très, très bon film qui retraçait bien, bien ma carrière et tout. Et moi, j'étais évidemment très émotionné pour cela.
Ce Tour 1967, il ne le gagnera pas. Mais il forcera le respect par sa classe éblouissante et son sens du devoir. Le Tour se court cette année en équipe nationale. C'est pour la France que Poulidor va se battre et il en est fier. Le champion vaincu sortira encore grandi de ce Tour de France. C'est son dévouement qui va émouvoir le public. Sous la chaleur écrasante du terrible col du Galibier, il retrouve son coup de pédale. Étonnant de facilité, il contre les attaques. Il accompagne Pinjon, son nouveau leader, lui tend la main et l'aide à conserver son maillot jaune. Poulidor éclabousse la course de sa classe et on peut se demander pourquoi il a sacrifié sa propre victoire tant il semblait le plus fort.
Ah, oh, Raymond Poulidor pour une fois et lui aussi, s'il vous plaît. Roger Pinjon embrasse Raymond Poulidor. Raymond, félicitations. Alors, ce sacrifice volontaire, est-ce qu'il y a eu des minutes où ce sacrifice vous a été pénible, compte tenu que vous recherchez vous aussi à rétablir une situation, à effectuer une bonne performance?
Non, pas du tout, car je me rends compte que souvent, il y a de bons coureurs qui font les domestiques et c'est des tâches qui passent souvent obscures et inaperçues. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui que le travail de domestique était quelquefois quelque chose de terrible.
C'est très beau ce que vous dites là, Raymond, mais ça sous-entend aussi qu'aujourd'hui, vous avez renoncé à gagner le Tour de France.
Tout réveil au goût amer était un cauchemar. Était un cauchemar. Oh non, c'était bien hier. J'ai les yeux si rouges et bombés par la nuit ou par les pleurs. Trahisé au mauvais rêve, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Comme ça qui me font pleurer, leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer, dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée. Pleurer, pleurer. disent de trouver. Non mais j'y crois pas. Le vent c'était toi, avant t'étais à moi. Quelques heures ou quelques verres et je dormirai. Ou je dormirai jusqu'au prochain matin. Où es-tu? Y'a ton odeur comme seule trace de ton corps. Où es-tu? Tes mains me manquent et moi j'y crois encore. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Leur vérité me tue, car la nuit a su me faire oublier. C'est les matins comme ça qui me font pleurer. Dès mon premier regard face à la nuit solitaire que j'ai passée.
Les matins, une chanson signée Angèle, retour en direct sur France Inter à 18h41. On poursuit cette émission spéciale consacrée à la mort de Raymond Poulidor, survenu mercredi dernier à l'âge de 83 ans. Et je reçois maintenant une journaliste politique qui a signé entre autres des papiers pour Le Parisien, Le Figaro, une grande carrière de journaliste politique, et qui est aussi auteur d'un livre qui s'appelle Le Tour de France et la France du Tour, sorti au printemps dernier chez Calmann Lévy. Béatrice Houchard, rebonsoir.
Rebonsoir.
Cette semaine, vous avez dit un peu partout, enfin depuis 3-4 jours, que vous deviez à la fois votre vocation journalistique et votre passion pour la politique à Raymond Poulidor. Pour quelle raison, Béatrice?
Alors, un peu partout, non, mais enfin, je l'ai mis sur Twitter, voilà. Donc ça doit être pour ça que c'est devenu
aussi,
partout.
Il y a un papier, je crois, que vous racontez ça.
Ben écoutez, tout simplement, je ne suis pas sûr que ce soit très, très, très passionnant, mais tout simplement parce que je me suis prise de passion pour les courses cyclistes à un moment très précis, hein, c'est mars 1966, bagarre Anquetil-Poulidor dans Paris-Nice. Poulidor bat Anquetil contre la montre pour la première fois, donc gros événement, et dans la dernière étape, il y a des collusions, disons, de différentes équipes, et finalement, Anquetil gagne, ça fait une énorme polémique entre les deux. On est vraiment au cœur, peut-être le moment le plus tendu entre les deux coureurs, leurs deux entourages, leurs deux équipes. Et je me dis, cette histoire est formidable. J'aimerais bien un jour pouvoir aller aussi, moi, regarder.
Vous aviez 10-12 ans.
J'avais 12 ans. J'avais 12 ans. À peine même, ah oui. Oui. Et je me dis, tiens, quel métier pourrait me permettre d'aller voir ça de plus près pour le raconter? Et je suis tombée assez vite sur journaliste. Je ne savais pas, heureusement peut-être, qu'à l'époque, il n'y avait pas de femmes qui avaient le droit de suivre le Tour de France. Sinon, ça aurait peut-être changé ma vocation. Donc, j'ai annoncé à mes parents que je serais journaliste pour suivre le Tour de France. Et comme à la maison, c'était plutôt Bach, Wagner et Schumann, ils m'ont dit, on en reparlera.
Oui, on en reparlera.
Ce qui était une façon de dire, ouais, cause toujours. Hein. Et on en a beaucoup reparlé.
Ça, c'est la vocation journalistique. Mais par ailleurs, c'est vrai que Anquetil Poulidor, c'était quasiment un second tour d'élection présidentielle. Donc, la politique arrivait.
Oui,
on a oublié ça, Béatrice, mais à l'époque, c'était une controverse gigantesque.
Ah oui,
Tout le monde avait un avis sur Poulidor.
Je pense que les gens, les plus jeunes aujourd'hui, n'ont pas idée de ce que ça a été. D'une part, la popularité de Poulidor, qui était vraiment, quand il passait quelque part, c'était l'émeute. Quoi. Il y avait des gendarmes pour le protéger, c'était donc difficile de l'approcher. Il est toujours très généreux et très gentil avec ses supporters, mais à condition de pouvoir approcher, c'était vraiment l'émeute, peut-être pas comme Johnny Hallyday, mais peut-être pas si loin,
pas loin
à l'époque,
loin,
hein, des années 60. Et puis, une rivalité. Oui, tout le monde était. Ce qui est très étrange, c'est que tout le monde était sommé de choisir son camp. Mmh. Même si on ne s'intéressait pas au vélo, ce qui est quand même le cas de beaucoup de gens. Il fallait choisir. On était anctiliste, on était poulidoriste, et les gens s'engueulaient, pardon du mot, le dimanche pendant les repas de famille. Parfois, ça finissait mal parce que d'un côté, c'était ton Poulidor, c'est un tocard, et de l'autre, c'était ton Anquetil, c'est un prétentieux, il paye pour gagner, etc. Donc, c'était vraiment couteau tiré, on n'a pas idée. Je suis pas sûr qu'on ait revu ça dans le sport.
Sans doute que non. L'historien Michel Vinocq, hein, dans ses chroniques des années 60, dit que Poulidor est la figure du paysan résigné, la figure de la pauvreté séculaire. On voit à quoi il fait allusion. Quand Anquetil était le symbole d'un monde spéculatif. Hein, ce sont les mots de Vinocq. Et vous allez un peu plus loin, Béatrice Houchard. Vous dites que Poulidor incarne aussi la France des oubliés un peu aujourd'hui peut-être.
Oui, aujourd'hui c'est bon. Alors faut se méfier. Voilà,
ou un champion de la proximité
les époques ne sont pas les mêmes,
bien
c'est toujours
sûr,
difficile
faut pas
de
comparer,
faire des comparaisons,
surtout pas, surtout
mais il y a un peu de ça, la France ce qu'on appelle la France d'en bas ou la France profonde, enfin là encore, faut se méfier des mots, mais il y a quand même de ça. Anquetil, à l'époque, c'était quelqu'un qui était effectivement assez en avance sur son temps. Il roulait en voiture étrangère, déjà. Pour dire que c'était Ford, son employeur, à une époque. Donc, il roulait en Ford, il roulait très vite. Il mangeait de la langouste, il buvait du whisky, il buvait du champagne.
Il fumait du cigare.
Ouais, il avait une vie privée un peu tumultueuse,
voilà,
on va dire.
Riche.
Et Poulidor, c'était plutôt la tradition, buvant, j'imagine, plutôt de l'eau, et faisant attention à son entraînement, à sa préparation, et ayant une vie de famille avec Gisèle Poulidor, sa femme, leurs deux filles, etc. Plus plan-plan, si l'on peut dire, mais plus traditionnel.
Deux visions du monde, hein.
Deux visions du monde. Et,
mais toujours un peu caricatural, parce que vous voyez,
oui, caricatural des deux côtés, bien sûr.
Poulidor est un peu benêt, etc. Et tout ça, vous savez, on peut penser parfois qu'un paysan a son air con, avec sa vue basse. Bon, on écoutait l'interview là ensemble, tous les deux, depuis une demi-heure, et c'est vrai qu'on se disait qu'en fait, il était quand même sacrément malin, ce
Poulidor. Oui, moi, ça me frappe depuis quelques jours à réécouter, effectivement, et notamment cette interview-là, quand il parle de Dali ou autre.
Oui, bien sûr.
On avait l'impression, quand il était coureur, vous savez, on dit souvent, oh, les coureurs cyclistes, ils ont pas grand chose à dire, ils sont contents d'avoir gagné.
Et lui en particulier.
Puis s'ils n'ont pas gagné, peut-être que je gagnerai l'année prochaine. Bon, ça va pas bien loin, mais bon, c'est l'exercice qui est comme ça. Et je pense que c'est une personnalité beaucoup plus complexe, comme si j'en ai une comparaison, je dirais que c'est un peu comme Jacques Chirac, qui a disparu aussi il y a
bien
peu
sûr,
de temps.
Bien sûr.
Où les deux ont l'air comme ça très simple, brut de décoffrage, et où derrière il y a deux personnalités que finalement on n'a pas complètement percées parce que chacun a gardé son
sachant
son mystère.
Que Chirac a même volontairement caché
son immense
culture,
en disant qu'il aimait la musique militaire,
exactement,
et en cachant très longtemps son goût pour
un être très cultivé, évidemment Chirac. Il y a quelques jours, Béatrice Houchard, on a remis le prix Goncourt à Jean-Paul Dubois, et Amélie Nothomb a encore raté le prix Goncourt, et on a dit Nothomb, c'est la Poulidor du prix Goncourt. C'est quand même incroyable, cette longévité. Il est devenu une expression populaire.
Oui, parce que maintenant, c'était il y a quand même très longtemps.
Mais bien
sûr. Il a essayé de courir en 77, je crois.
Ça fait 40 ans, 42 ans.
Ça fait 42 ans. Et quand il, puisqu'il était tous les ans là, moi je l'ai vu cet été au mois de juin à Pau, le jour du centenaire du Tour de France, il était là tous les ans. Il signait des dédicaces. Alors parfois, c'était assez drôle parce qu'il y avait, j'ai vu une fois des grands-parents qui venaient avec leur petit-fils. Alors leur petit-fils savait pas trop qui était ce monsieur avec
bien
le t-shirt jaune du Crédit Lyonnais.
Et les cheveux blancs.
Et en gueulant le gamin en disant « Quand même, tu ne reconnais pas monsieur Poulidor ?» Et Poulidor obligé d'intervenir en disant « Mais attendez, c'est normal qu'il ne me connaisse pas, il a 10 ans.
Ouais, »
mais pour les grands-parents...
C'était évidemment une sorte de légende vivante, évidemment. Ce soir, on a écouté Poulidor sur Inter, c'était en 2015. Mais vous avez raconté une autre histoire, vous, de Poulidor et d'Inter. C'était quoi cette anecdote?
Oui, alors une histoire dont j'ai le souvenir très précis. Je pourrais pas vous dire l'année, ça devait être quand je rentrais du lycée. J'écoutais très souvent au retour du lycée Radioscopie de Jacques Chancel, qui a marqué l'histoire de la radio,
évidemment
dans ces studios où nous sommes. Et Poulidor était annoncé. Donc évidemment, je n'avais pas loupé Raymond Poulidor à Radioscopie. L'émission commence. Jacques Chancel commence le fameux indicatif célèbre que l'on a tous dans l'oreille. Et puis Poulidor n'était pas là. Il doit être en retard, on va l'attendre. Et puis ça a duré une heure et Poulidor n'est jamais venu.
Jamais venu en direct.
Alors impossible, pas de portable à l'époque, bien évidemment.
Et oui,
impossible.
Injoignable.
Et on a su après qu'il était venu jusqu'à la maison de la radio à vélo. Et qu'il ne s'était pas arrêté, il n'avait pas osé venir en se disant au fond pourquoi on m'invite là-dedans, j'ai rien d'autre à dire que ma vie de coureur cycliste et j'ai rien d'intéressant à raconter.
J'ai un peu la trouille.
Et donc j'ai un peu la trouille. Donc il a planté l'émission. De fait, moi j'étais très déçu à côté de mon petit transistor de l'époque. Et Jacques Chancel finalement a réussi à le coincer pendant une journée de repos, je crois, d'un Tour de France l'année suivante, en disant...
Il s'est déplacé, Chancel, sur le Tour de France,
et en disant,
pour avoir Raymond Poulidor.
Il sera bien obligé de répondre, puisque j'irai le chercher sur son terrain.
Eh bien oui, évidemment.
Mais ça en dit long aussi sur l'humilité du personnage qui accepte l'émission tout en se disant... Il le dit d'ailleurs dans d'autres interviews plus anciennes, j'ai rien d'intéressant à dire, ce qui n'était effectivement pas vrai.
Non, absolument. Et puis on l'a entendu ce soir, il avait des choses à raconter, Raymond Poulidor. Lors de ces grandes heures de gloire, Béatrice Houchard, ce qui était assez frappant, c'est son indolence. Parce que on a souvent moqué Poulidor, le dernier second, les chutes, les crevaisons, là où il doit. Il y a toujours une sorte de... Il était un peu loser, finalement. Mais ce qu'il affiche chez lui, c'est une joie de vivre, un sourire, et à ses moqueries, il répondait, en fait, je m'en fous, j'adore ma vie.
Oui, là aussi, grande différence avec Anquetil, qui était quelqu'un de très, très angoissé, qui était insomniaque, enfin là aussi, qui était très complet, et qui avait une rage de vaincre, comme a eu Merckx. Ensuite, vous savez, en politique, on dit il y a les tueurs et il y a ceux qui ne le sont pas. Anquetil, c'était un tueur, avec plein de guillemets, évidemment.
Oui, bien sûr.
Et Poulidor, très bien exprimé lui-même, peut-être pas dans les années où il courait, mais dans les années qui ont suivi, de dire j'étais tellement content d'être sorti de mon milieu, c'est-à-dire qu'il aurait été métayé comme ses parents ou un peu plus, mais sans doute guère plus, et tellement heureux d'être là, d'avoir fait les rencontres, il le dit dans l'interview, les voyages, d'avoir financièrement eu un ascenseur social assez fulgurant, et donc il était heureux d'être là, et parfois il musardait en queue de peloton, et il regardait les nuages, il rêvassait, et puis il loupait la bonne échappée. Et je crois qu'il a dit une fois qu'il ne s'était jamais réveillé en se disant « Aujourd'hui, c'est moi qui gagne ».
Oui.
Ce qui est, alors comme qu'il, à mon avis, même les jours où il n'y avait pas de course, il se réveillait en se disant « Aujourd'hui, c'est moi qui gagne ».
Évidemment. On sent bien, Béatrice Auchard, qu'on assiste à la fin d'une époque. Hein. Johnny meurt, Chirac meurt, Poulidor meurt cette semaine. C'est la fin d'un monde, celui de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va dire, et puis les années 60. Alors on sent bien qu'il y a une tentation du « c'était mieux avant », peut-être une forme de nostalgie qui peut être là. Comment on peut s'en prémunir quand même, Béatrice Auchard? À la fois, on sent bien qu'il y a une émotion, mais il faut quand même faire attention, de parce que c'était quand même pas... quand on regarde un petit peu les 60s, il y a plein de problèmes. Hein. C'est la guerre d'Algérie, c'est la torture avec Osares, c'est les bidonvilles à Nanterre, c'est la condition féminine qui n'est pas ce qu'elle est.
Oui, et contrairement à ce qu'on nous raconte maintenant, un niveau de vie... Alors c'est vrai qu'il y avait 6% de croissance et beaucoup moins de chômeurs, ça voilà. C'est vrai, mais un niveau de vie moyen qui n'était pas si terrible que ça, où les gens partaient pas tous en vacances tous les ans au mois d'août. Je crois qu'en 68, il y a un foyer sur deux en France qui n'a pas de salle de bain.
Bien sûr. C'est bien de le rappeler.
Voilà, déjà, tout à fait.
On magnifie cette époque-là qui peut incarner Poulidor, mais il y avait quand même...
La différence, c'est que dans cette période-là, on avait l'impression... chaque année que les choses allaient aller de mieux en mieux, oui, et que ça ne s'arrêterait jamais.
Il y avait une horizon, et ça
n'est plus vrai. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la différence. Sinon, moi, je suis assez tranquille là-dessus. Je suis pas nostalgique du tout. Donc, je pense pas du tout que c'était mieux avant. Et donc, cette semaine, il y a eu plus d'émotion, puis un peu de chagrin, je vais vous dire.
Bien sûr, il faut l'assumer.
Mais nostalgie, il faut la laisser au vestiaire.
Évidemment. Est-ce que vous ne pensez pas, Béatrice, vous connaissez très bien le Tour de France avec ce livre, Le Tour de France et la France du Tour, que le Tour de France pourrait peut-être avoir une vocation européenne. L'Europe manque d'imaginaire. Le Tour de France a créé un imaginaire français. On a vu des paysages, on a vu des coureurs s'affronter, on a vu toute une culture du Tour de France. Est-ce que dans une construction européenne, il n'y aurait pas à imaginer un tour cycliste en Europe?
Alors, il y a eu des idées, des gens qui ont réfléchi autour de ça. Je suis pas complètement convaincue, mm-hmm, mais je peux pas non plus vous dire.
C'est un projet que j'avais.
Ah, mais c'est très bien.
Je trouve ça intéressant, je trouve.
Voilà. Non, mais l'idée pourrait se venir. Je sais pas si chacun, parce qu'il y a le Tour d'Italie qui est caractéristique, très différente de celle du Tour de France. Le Tour d'Espagne qui est aussi une course culturellement très, très différente.
Mais voyons, on partirait des Highlands en Écosse, vous voyez, puis
alors le Tour de France, comme le Tour d'Italie d'ailleurs, part maintenant assez souvent d'autres pays, ce qui énerve beaucoup de gens qui disent, c'est plus le Tour de France, ils partent de l'étranger.
Par exemple, ça durerait un an.
Ah, alors ça, c'est autre chose. Ça durerait une année. Une année.
On commencerait les Highlands en Écosse, et puis on descendrait comme ça jusqu'à la Sicile.
Voyez. Alors là, il faut demander aux sponsors des équipes cyclistes ce qu'ils en pensent.
Peut-être, pourquoi pas.
Mais c'est peut-être une idée. On ne sait jamais.
Raymond Poulidor sera enterré après-demain à Saint-Léonard-de-Noblat. Saint-Léonard-de-Noblat, exactement. Vous y serez, obsèques ou pas? Non, vous y serez pas.
Non, je crois pas, non.
Ce sera familial, j'imagine.
Oui. Et puis tout le monde cycliste, les organisateurs du Tour, j'imagine, et les... probablement beaucoup d'anciens coureurs. J'étais frappé aussi par les réactions des jeunes coureurs français et étrangers. Je pense à Mark Cavendish ou à Christopher Froome, qui ont eu des mots très, très touchants pour Raymond Poulidor.
Pour Raymond Poulidor. En tout cas, merci beaucoup, Béatrice Auchard, d'être venue ce soir nous parler de votre passion pour Raymond Poulidor. Plongez-vous dans l'histoire du Tour de France et la France du Tour, racontée donc par Béatrice Auchard. C'est disponible aux éditions Kalman-Lévy. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Prenez soin de vous. À bientôt. Ne quittez pas l'écoute, car voici maintenant le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Bonsoir Joy.
Bonsoir Colin, bonsoir à tous.
Alors avec quoi ouvre-t-on ce Give Me Five ?
Eh bien on commence avec un reportage du journal Le Monde qui glace un peu. Le réchauffement climatique et les sportifs. Alors on se souvient des mondiaux d'athlétisme qui ont eu lieu début octobre à Doha au Qatar. La température étouffante qui était ressentie jusqu'à 45 degrés la nuit quand même et l'humidité qui atteignait plus de 70% avait entraîné un taux record d'abandon et de malaise. On pense notamment à Johan Diniz.
Oui, vous savez, toutes ces images qu'on a vues de sportifs en souffrance.
C'est ça. Eh bien, la journaliste du Monde, Sandrine Cabu, explique que le problème n'est pas nouveau, mais que les instances sportives et politiques vont devoir de plus en plus faire face à ce problème et prendre soin de leurs sportifs. Selon les simulations d'une équipe américaine de The Lancet, d'ici à 2085, une poignée de villes de l'hémisphère nord, alors hors Europe occidentale, hein, faut comprendre, pourrait accueillir les Olympiades sans trop s'exposer au risque des conditions climatiques. Parce qu'en fait, plus la température grimpe, plus les capacités de thermorégulation des athlètes sont sollicitées, au risque donc d'être dépassées et d'entraîner une hyperthermie maligne d'effort. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça peut carrément mettre en jeu le pronostic vital. Donc à ce stade, les sportifs amateurs comme nous, hein, Colin, ne sont pas encore menacés, mais on imagine que ça ne saurait tarder.
Oui, j'imagine. En tout cas, c'est un très bon papier à lire sur lemonde.fr, signé Sandrine Cabu. La suite, Joy.
Eh bien, un autre combat. La lutte contre les inégalités hommes-femmes et les discriminations sexistes. Le président de la Fédération allemande de football a proposé cette semaine que la Mannschaft et la Die Mannschaft, les sélections nationales masculines et féminines, ne se déplacent plus pour jouer dans des pays où les femmes n'ont pas accès aux stades de football ou autres installations sportives, hein, au même titre que les hommes, sans discrimination donc. C'est une décision qui devrait s'appliquer prochainement, on est content.
Oui, et on verra si ça inspire d'autres fédérations de football, pourquoi pas la Fédération française de football. On reste dans le foot, Joy.
Oui, mais on part aux États-Unis. Puis il y en a un qui part des États-Unis, vous allez voir. Après avoir joué 2 saisons, marqué 52 buts, effectué 17 passes décisives en 53 titularisations avec le club californien, Zlatan Ibrahimovic vient d'annoncer qu'il quittait les Los Angeles Galaxy. Il était arrivé en 2018 et son contrat prenant fin en décembre, le géant suédois a annoncé cette semaine sur Twitter qu'il ne prolongerait pas. Alors je vous lis son tweet parce que c'est ça l'essentiel de la news. 100% Zlatan, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Vous vouliez Zlatan ? Je vous ai donné Zlatan. Il n'y a pas de quoi. L'histoire continue. Maintenant, retournez voir du baseball.
Oui, 100% Zlatan, en effet. Où va-t-il jouer ? Ça, c'est la question maintenant voilà. Que tout le monde se pose. On en reparlera sans doute très prochainement, j'imagine.
C'est sûr.
Quoi d'autre, Joy ?
Dans la série « Gros fail lors d'une compétition internationale », on adore hein, ça. Eh bien, Adidas ayant floqué le drapeau russe à l'envers sur le nouveau maillot de l'équipe russe, celle-ci jouera désormais ses derniers matchs qualificatifs pour l'Euro 2020 avec son ancienne tunique.
Et oui, voilà. Fail donc encore, évidemment, dans le football. Et pour finir, ton conseil culturel du jour, Joy ?
Eh bien, c'est la sortie Netflix de la semaine. C'est la mini-série intitulée Maradona au Mexique, et c'est génial. En fait, ce docu-série retrace les 2 ans du grand Diego au Mexique, donc où en septembre 2018, Maradona avait été nommé entraîneur de Los Dorados de Sinaloa, dans la ville de Culiacán, hein, vous savez, fief, je vous le rappelle, du grand narcotrafiquant El Chapo. Oui. Donc durant 7 fois une trentaine de minutes, on suit l'entraîneur le plus célèbre de la 2e division mexicaine, mais aussi les familles, les joueurs et les supporters de l'équipe. Entre images d'archives de Maradona joueur hein, et reportages 2 années durant au plus près de l'entraîneur, cette série nous fait voir Maradona d'un autre œil. Franchement, c'est assez touchant. On découvre un homme qui a les jambes arquées et un genou fracassé, qui avoue être l'homme le plus romantique sur Terre, puisqu'il dit avoir offert jusqu'à 500 roses jaunes à une femme qu'il aimait. Grande classe. On découvre aussi un Maradona qui chante et qui danse tout le temps, qui avoue ses fautes, qui a des regrets, qui reconnaît aujourd'hui qu'il s'emporte trop vite. Qu'il dit ça tout en s'emportant trop vite. Et puis Maradona explique pourquoi il est devenu entraîneur. Il dit les mots suivants. « Ce qui m'intéresse le plus, c'est prendre soin des joueurs. Je suis bon et je veux améliorer le football, mais je ne suis pas parfait. » Voilà. Donc on en finit par oublier El Pibe de Oro pour voir un père avec ses fils, parfois aussi exaspérant franchement que touchant. C'est surprenant, c'est brillant que vous aimiez ou pas Maradona. Cette série ne peut pas vous laisser indifférent.
Et ça s'appelle Maradona au Mexique.
Tout simplement.
Une sorte de docu-série à voir de toute urgence sur Netflix donc. Moi, en tout cas, je vais m'y précipiter. Merci, Joy. Et à la semaine prochaine.
Bye.
Salut. Et voilà, nous sommes au bout de cette 12e émission de notre saison 5, coachée bien sûr par l'incontournable H2M Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco, assisté ce soir à la technique de Nicolas Delmas. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'œil du tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour les Scuds et Loïc Solnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, évidemment, et aussi avec franceinter.fr pour catcher le podcast après la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un dossier passionnant, l'histoire du sport en France sous l'occupation ou comment le gouvernement de Vichy s'est emparé du phénomène sportif. Oui, parce qu'il y avait une devise funeste, évidemment, travail, famille, patrie, mais qui était sous-tendue par un effort physique, la régénérescence des corps. Vous verrez, 2 historiens viendront nous raconter ça dimanche prochain dans l'œil du tigre. D'ici là, passez une excellente soirée et une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.